Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
On continue notre journée marathon au Salon CIMI, premier jour du salon, et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur le maire Julien Chambon. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très bien.
Vous êtes maire de Houille, encore un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, l'actualité politique, le vote de la motion de censure il y a quelques jours, quel est votre regard un peu sur cette situation et quelle incidence ça aurait sur l'immobilier ?
Beaucoup d'instabilité.
Ouais.
La vérité, c'est qu'il y a une inquiétude sur la perspective que cela donne en termes, bien sûr, d'équilibre financier de l'État, d'impôts. Pour la commune dont j'ai la chance d'être le maire, c'est beaucoup d'incertitudes sur le budget 2025.
Ouais.
Quelles sont les économies qui sont demandées aux collectivités ? Il y avait des débats,
ouais,
plus rien, tout est rebattu. Donc on va dire que ça n'apporte pas forcément de sécurité sur la projection.
Non.
C'est une instabilité.
Ça provoque beaucoup de remous.
Beaucoup de remous, et nous, dans les communes, on essaie d'apporter justement de la stabilité à nos concitoyens. Ouais. C'est ce qu'on essaie de faire.
Oui, parce que c'est vous, à leurs yeux, qui êtes le responsable.
Alors, pour les gens, c'est les pouvoirs publics en général.
Ouais.
Donc, de toute façon, on se doit d'apporter cette stabilité à nos concitoyens, tant sur les finances communales, pour le coup, ah oui, ça va plutôt bien, mais sur la capacité à mener les projets, parce que la vie ne s'arrête pas. Nous, on a des crèches à rénover, on rénove une école, on fait des espaces publics, donc on doit pouvoir mener nos projets de façon sereine. Et c'est vrai que ce climat national jette vraiment une espèce de chape de plomb sur l'état du moral, on va dire, des Français, des décideurs, mais chacun à notre échelle. Même la personne qui souhaite acheter son premier bien, aujourd'hui, elle ne sait pas comment se projeter. On voit bien qu'il y a un attentisme fort et une volonté de retrouver une perspective. Je ne dis pas que les gens savent exactement ce qu'ils veulent.
Ouais.
On voit bien, le pays est divisé. L'Assemblée est répartie en 3 morceaux.
Exactement. Personne ne domine. Aucun bloc ne domine.
Et puis, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait quelqu'un qui soit capable de traduire un peu, on va dire, de faire basculer la majorité dans une perspective et une dynamique.
Ouais.
Ça, c'est une question après d'élection presque présidentielle, mais c'est 2027. Qu'est-ce qu'on fait jusqu'en 2027 ?
Ouais, c'est clair.
Cette France, on va dire, partitionnée, divisée, je pense qu'on en a pour quelques mois, voire quelques années, avec laquelle il va falloir cohabiter, entre guillemets.
Bah, au moins jusqu'en 2027. Et après, à moins d'un personnage fort qui émerge en 2027, ça va continuer.
Le principe de notre régime politique, c'est que c'est une offre politique forte qui porte une adhésion.
Bah, c'est ça.
Là, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a personne qui est capable d'incarner ça, parce que de toute façon, ce n'est pas la question qui est posée.
On a l'impression qu'on arrive au bout un peu pas d'un système, mais au bout d'une idée. Les Français sont sans solution. Et pas que sur l'immobilier. On est dans un salon immobilier, évidemment, on parle d'immobilier, mais pas que dans l'immobilier. Les Français, on souffre.
En fait, nos démocraties, en France notamment, ce sont les classes moyennes.
Ouais.
C'est-à-dire que la possibilité de s'émanciper, de construire sa vie, de devenir propriétaire, de se loger, d'aller là où il y a du travail. Et ces classes moyennes-là, on voit bien qu'elles sont complètement percutées par des logiques de pouvoir d'achat, par une incapacité à acheter son bien, par une assignation à résidence.
Ouais.
Et ce socle, on va dire, de classes moyennes qui forment la démocratie, notamment en France, il est très perturbé. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah, on a une montée de l'extrême droite, on a une montée de l'extrême gauche, extrême droite dans les campagnes avec un sentiment d'abandon très fort, et un sentiment de non-appartenance, on va dire, ou dans les zones très urbaines avec une montée de l'extrême gauche. Et en fait, on se retrouve avec une offre politique extrêmement radicalisée, au sens négatif, et avec des solutions qui sont parfois à la limite du populisme et de la démagogie.
Oui, parce qu'il n'y a pas de majorité, mais en fait, la radicalité, c'est elle qui a la majorité, finalement. Si on prend les deux blocs gauche-droite...
Je dirais que comme les classes moyennes, elles doutent, il y a une vraie perte de capacité à proposer des solutions concrètes, réalistes. On a un peu tendance à acheter le bébé avec l'eau du bain.
Ouais.
C'est ça qui risque de se passer. Il y a un tel ras-le-bol. Et puis, dès qu'il y a des luttes politiques... comme on a vu avec la motion de censure, ça dégoûte les gens.
Ah bah ouais.
Parler de politique, moi je vais sur le marché à Houille, les gens sont préoccupés, dégoûtés, ils rejettent. Et ils me disent, même moi, je leur parle des projets de la commune, parce que nous on a des beaux projets, ils continuent leur vie. Ils me disent, non mais de quoi vous nous parlez, les impôts qu'en est-il, le gouvernement qu'en est-il, ça brouille même la capacité au niveau local à se projeter.
C'est difficile dans ce cas-là d'avoir un langage ou d'avoir une conversation très concrète au local, de parler de vos actions pour le développement de la ville, d'avoir une vision à plus ou moins long terme. Quand il y a tout ça qui se passe.
T'es dans une commune, ils nous parlent de la même chose que dans toutes les communes de France. Est-ce que j'ai accès aux soins, à la santé ? Et on voit bien, quand on perd son médecin, quand on perd le commerce, quand on ferme l'école, bah c'est ce qui se passe dans la ruralité. On a envie on est énervé.
Ouais.
Donc on va voter un extrême pour, on va dire, changer, renverser la table. Nous, dans la commune, à un moment donné, on va s'adresser aux vraies problématiques des gens. Et c'est la numéro une, c'est l'accès aux soins. C'est pour ça que nous, par exemple, on construit une maison de santé. Donc concrètement, on va mettre des moyens pour attirer de nouveaux médecins dans notre commune. Mais il y a des choses que nous, on peut faire à l'échelle d'une commune, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On peut agir sur l'immobilier et sur le logement pour permettre aux gens d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'on va développer du logement abordable ou qu'on va permettre à des gens de devenir propriétaires. Parce qu'en Île-de-France, je crois que c'est 30 à 35 % ouais. des revenus des personnes qui partent dans le logement.
Depuis cette année, ça y est, le logement est le premier poste de dépense des Français avec une moyenne, me semble-t-il, de 26 % au national, d'après l'INSEE, loin devant la nourriture à 17 % et les transports à 13 %. C'est une première.
Ça, c'est un vrai problème qui nous pose question. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et oui, représentatif, je pense, de villes de banlieue plutôt ouais. attractives, d'ailleurs.
C'est ça.
On va avoir des maisons très, très chères, ouais. des biens très, très chers. On s'adresse à des gens qui ont vraiment une capacité à investir.
Donc, la maison individuelle, jardin...
Voilà, on est à 6 000 euros le mètre carré, 7 000 okay. euros le mètre carré. Quand on compare les prix, c'est assez cher. Et à l'inverse, on va d'ailleurs nous obliger à construire du logement social. Donc, on va avoir une polarisation
oui,
modeste ça. Et très riche. Mais au milieu, on fait quoi pour les gens normaux qui travaillent beaucoup, qui payent beaucoup d'impôts, qui ont beaucoup de charges et qui ont envie de se projeter, la fameuse classe moyenne. Et elle ne peut pas trouver des ressources comme ça en claquant dans les doigts. C'est pas possible.
Et vous me disiez en plus hors antenne, Houille aujourd'hui c'est 40 minutes de la porte Maillot, là où nous nous trouvons aujourd'hui pour le Salon Simi. Demain avec le RER E, me semble-t-il, si j'ai bien retenu, on sera à 15 minutes. Donc ça va rendre le territoire encore plus attractif.
Houille est très bien connecté à la région parisienne. C'est ce qui fait d'ailleurs dans son histoire son essor urbain.
Exactement.
On est à l'ombre de la Défense, à 15
minutes route commerciale.
Du quartier d'affaires. C'est vraiment... les gens apprécient vivre là-bas parce que c'est une ville à taille humaine et ils sont très bien connectés à la région parisienne. C'est vrai que le RERE va apporter ce maillage complémentaire et supplémentaire. Donc nous, on va avoir cette même tension immobilière sur des biens qui vont se renchérir.
Ouais.
Et comment on loge les employés, les instits, les infirmières, ceux qui bossent dans nos cantines, nos agents. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire que du logement social. Et au final, au milieu, les gens, ils font quoi ? Ils sont assignés à résidence avec le logement social ou exclus de l'acquisition à Houille avec le logement privé ? Comment on arrive à proposer une offre, en fait, pour tout le monde et pour l'essentiel des Français, les classes moyennes ?
C'est quoi aujourd'hui la dynamique immobilière à Houille ?
En fait, elle s'est tarie, bien sûr, à l'échelle du pays. On a eu 25% de transactions immobilières en moins en un an. Donc globalement, la masse des transactions, c'est vraiment tarie.
Ouais.
Moi, j'ai été élu, notamment, pour maîtriser l'urbanisme.
D'accord.
Ce sont des communes qui étaient tellement assaillies par les promoteurs qu'on avait un phénomène de destruction du pavillonnaire remplacé par des immeubles.
On construisait à tout va de l'immeuble et de l'immeuble.
Voilà, sans coordination, sans vision et parfois de façon à un rythme trop rapide pour que la ville accompagne ces transformations. Construire les routes, construire les écoles, construire les crèches. Donc moi j'ai été élu pour maîtriser.
Et mettre de l'harmonie là-dedans.
On met de l'harmonie, on met du timing pour que la ville soit capable d'accueillir les nouveaux habitants sans que ça vienne dénaturer notre commune.
Okay.
On construit près de la gare plutôt que d'aller construire dans la zone pavillonnaire. On construit près d'un axe de circulation où il y a une ligne de bus plutôt que d'aller construire au plein cœur des pavillons. Donc c'est ça qu'il faut qu'on ait la capacité à faire ça dans un marché immobilier très attractif, même si en masse il a baissé. Les prix ont baissé d'à peu près 5-6%, mais ça reste très très cher. Et à l'inverse, comment est-ce qu'on arrive à créer du logement abordable dans notre commune ? Encore une fois, même pour nos enfants. Demain, on est au Villois, on a acheté depuis 30 ou 40 ans, ça va. Mais comment nos enfants font pour se loger alors qu'ils sont en études à côté ? Ils restent chez les parents, mais tout le monde n'a pas la possibilité d'accueillir tous leurs enfants tout le temps de leur début de vie active. Mais puis il y a d'autres personnes qui ont besoin de... Il y a des gens modestes aussi qui ont acheté leur maison il y a un certain temps, qui n'ont plus les moyens aujourd'hui de la rénover, par exemple, d'un point de vue énergétique.
J'allais y venir. Sur la rénovation énergétique, justement, on va être obligé, parce qu'il faut le faire, il faut la mener. Comment est-ce qu'on peut concilier immobilier et rénovation énergétique?
C'est là, je pense, qu'on a vraiment une réponse politique à apporter à la classe moyenne. Et Houille est intéressante aussi parce qu'une partie des propriétaires, des petits propriétaires fonciers, sont des gens qui sont relativement issus de la classe moyenne.
Vous êtes une ville laboratoire, en fait.
On est un peu une ville laboratoire parce que c'est l'histoire de Houille. Elle s'est construite comme ça. Des gens qui ont acheté leur pavillon 10, 15, 20, 30 ans. Aujourd'hui, soit ils ont un âge où ils vivent tout seuls dedans, il n'y a plus personne dedans. Ils sont une ou deux personnes dans un grand pavillon. Et comment ils font pour donner du sens à leur habitat, le rénover, retrouver les ressources économiques alors que leurs revenus n'ont pas forcément évolué autant que le voisin CSP+ qui travaille à la Défense ? Bah, peut-être que le premier, on parlait des problèmes des promoteurs, peut-être que le premier promoteur de France, ce sont les petits propriétaires d'Île-de-France. C'est eux, sur leur parcelle, sur leur bien, qui, en rajoutant un petit logement pour un étudiant, se font un complément de revenu et financent grâce à ça la rénovation énergétique de leur pavillon. Ça pourrait être une solution où tout le monde est gagnant.
Ouais.
Ça crée un revenu sur un bien et ça permet de revaloriser le bien et de continuer à y vivre. On a des personnes âgées parfois qui sont obligées de quitter leur maison parce que les charges sont trop importantes. On a des familles qui n'ont plus leurs enfants à charge et qui ne savent pas comment occuper l'espace, et de la même manière, qui se retrouvent avec des charges aussi importantes parce qu'en retraite, on perd un peu de revenus.
Exactement. Donc c'est mieux réemployer les mètres carrés qui sont à disposition.
Mieux réemployer et créer du logement abordable sans forcément être obsédé par la construction neuve de logements sociaux. Pourquoi ? Il n'y a plus d'argent public. On le sait bien, c'est pour ça que l'État est embourbé, il y a trop de dettes. Comment on fait pour fabriquer du logement qui, jusqu'à présent, était grandement payé par l'argent public ? En fait, si on permet à quelqu'un d'enrichir son patrimoine, de créer un revenu et, en plus, de créer un logement abordable pour une personne, un jeune actif, une personne seule, une famille monoparentale, une femme seule qui élève son enfant, sans argent public, est-ce que ça, c'est pas un contrat gagnant-gagnant avec les habitants ?
C'est important de redonner foi en le logement pour les Français ?
Le logement est une part importante de est-ce qu'on a réussi sa vie.
C'est un marqueur.
Est-ce que j'ai réussi quelque chose dans ma vie ? Est-ce que je vais laisser quelque chose à mes enfants ? Est-ce que le labeur de toute une vie va se concrétiser à travers un patrimoine ? Eh bien, ce patrimoine-là, aujourd'hui, cette perspective-là, elle est en train de s'effriter et de s'étioler. Et c'est extrêmement grave, notamment pour notre démocratie en France, pour le fonctionnement même et la capacité à se projeter dans l'avenir. Il faut qu'on redonne de l'espoir à ces Français-là.
C'est quelque chose qu'on n'a pas assez fait les dernières années, vous trouvez ?
On a une vision très française. Grosse construction, industrie, financement public, grosse promotion. En fait, on oublie la kyrielle de petits Français propriétaires qui, eux, en fait, maîtrisent l'essentiel du foncier d'Île-de-France. Ils sont là et leurs biens, parfois, se dégradent. Il faut leur redonner une seconde vie, un nouvel usage. À nous, dans les communes, d'accompagner cette transformation-là, de leur donner, en tout cas, l'opportunité de le faire. Je pense que là, il y a un vrai combat à mener.
Pour redonner des perspectives patrimoniales et locatives aux Français. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour cet échange.
Merci à vous.
Je vous souhaite un très bon Salon CIMI et puis au plaisir de vous recevoir une nouvelle fois sur notre plateau.
Toujours bienvenu à Houille. Au revoir.
Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.